Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici Jabodima
qui renverse les forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Lorsque vous pensez à cela, pensez à vous. La Bible dit l'amour est patient. Patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mes amis, ça c'est une parole puissante qu'il nous faut appliquer dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de l'apprendre et de la connaître. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Ce soir, nous allons chanter un chant. Alléluia. Est-ce que vous êtes vivante ce soir? Vous avez vos stylos. Si vous êtes venu sans stylo, si vous êtes venu sans papier, vous pouvez rentrer à la maison. Parce que vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce que je vais vous dire. Et si vous venez ici sans papier, sans stylo, vous venez pour rien. Vous avez besoin d'avoir un papier, un stylo. Michel va bientôt nous faire des cahiers des femmes de la parole. Elle n'était pas au courant, mais maintenant elle est au courant. Ok. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a étudié la dernière fois? On va continuer dans ce que nous avons étudié. Mais certains d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a étudié? Les points importants qu'on a étudiés la dernière fois. Est-ce que vous voulez que je vous les rappelle? Ok. Donc peut-être certains d'entre vous, vous n'étiez pas là. Mais donc il y a des choses importantes que nous avons vues ensemble. Et nous avons commencé à parler sur l'esprit de Jézabel, qui n'est pas simplement un esprit de contrôle, mais qui est un esprit bien plus puissant que ça, c'est un esprit de domination. Le contrôle c'est une chose, la domination en est une autre. Et ce que je vous ai dit donc la dernière fois, c'est que cet esprit ne doit avoir rien en vous, n'est-ce pas? Et que vous devez le haïr, vous devez le rejeter, mais pour cela il vous faut le reconnaître. Et je vous ai dit que c'est un esprit donc qui est fort, qui est un esprit qui est puissant, c'est un esprit qui impressionne. Lorsque les gens, vous savez, sont faibles, lorsque les gens sont tendres, ils sont souvent impressionnés par ce genre d'esprit. Mais je vous ai expliqué la dernière fois que si vous voulez être une femme forte aujourd'hui, c'est bon d'être une femme forte et on a besoin d'être des femmes fortes et Dieu a besoin de femmes fortes. Mais être une femme forte dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne veut pas dire être une femme comme Jézabel. Ce n'est pas de la même force dont nous parlons, ce n'est pas de la même puissance dont nous parlons. Parce que nous ne parlons pas d'une puissance selon la chair, nous parlons d'une puissance selon l'esprit. Et mes amis, la force de Jézabel était dans sa chair, mais la force de la femme de Dieu est dans l'esprit. Parce qu'elle n'accomplit pas sa destinée, elle n'accomplit pas son chemin en Dieu par le bras, par le muscle, par le bras de la chair, par la façon dont elle va jouer des coudes et dont elle va parler d'elle-même, mais de la façon dont le Saint-Esprit va la promouvoir, dont le Saint-Esprit va parler d'elle, dont le Saint-Esprit va vraiment lui ouvrir le chemin. Amen. Et donc je vous ai dit, faites attention à qui sont vos modèles. Et je le répète ce soir, faites attention à qui sont vos modèles. Vous devez calquer votre vie en fonction d'hommes et de femmes qui sont selon Dieu, de gens qui sont de bons exemples. N'allez pas admirer des gens qui ont fait de mauvaises choses. N'allez pas admirer des gens ou je ne sais pas qui, toute espèce de personne qui n'est pas recommandable. Admirez des personnes vraiment selon Dieu et en toute chose considérez la fin, leur fin. Amen. Je vous ai dit, l'esprit de Goliath était un esprit d'intimidation. L'esprit de Delilah était un esprit de manipulation. L'esprit d'Hérodias et de Salomé était un esprit de quoi ? Qui tue ceux qui dénoncent leurs péchés. Mais l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Goliath, de Delilah, de Hérodias, de Salomé, et c'est un esprit antéchrist. Amen. Donc nous ne luttons pas ce soir contre un petit esprit. Nous ne sommes pas en train de faire ici le point sur un petit esprit fragile, sensible, que l'on cerne facilement, mais sur un esprit puissant qu'il nous faut vaincre dans le nom de Jésus et qu'il n'est rien en nous. Je vais rapidement parce qu'on a tellement de choses à voir ce soir. Ok, je vous ai dit une chose importante, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas exposé à l'esprit de Jézabel tant que vous n'êtes pas dans une position d'autorité. L'esprit de Jézabel s'en fiche de vous, excusez-moi de parler comme ça. L'esprit de Jézabel ne vous regarde même pas, il passe au travers, il n'est pas intéressé par vous. Tant que vous n'êtes pas dans une position d'autorité, il n'est pas intéressé par vous. Mais du moment où vous êtes dans une position d'autorité, vous pouvez faire face à ce genre d'esprit. Ok ? Les caractéristiques de cet esprit, je vous les rappelle rapidement. C'est un esprit de contrôle et de domination, c'est un esprit d'idolâtrie, un esprit politique, un esprit d'intimidation et de manipulation, un esprit qui conduit les gens, donc qui a de l'influence sur les gens, et qui conduit les gens dans une perversion spirituelle et morale. C'est un esprit qui sait jouer des apparences et qui travaille beaucoup ses apparences, beaucoup son image, son discours, etc. C'est un esprit donc qui est très tactique, n'est-ce pas ? C'est un esprit qui donne des conseils corrompus. C'est un esprit qui est vraiment dévoré par l'orgueil, on peut dire l'arrogance aussi. C'est un esprit de rébellion et de dureté. C'est un esprit qui usurpe l'autorité. C'est un esprit qui ne se repent jamais. Et c'est un esprit qui s'oppose à Dieu. Et tôt ou tard qui se tourne contre Dieu. Et tôt ou tard qui combat l'œuvre de Dieu, ses serviteurs et son onction. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous rappeler très brièvement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses dont on a parlé la dernière fois. Prenez la cassette. Mais tout ça pour que nous puissions commencer ce soir sur donc la suite de l'esprit de Jézabel. Et la première chose dont je veux vous parler, c'est la personne de Jézabel. Alléluia. La personne même de Jézabel. Mes amis, est-ce que vous savez ce que veut dire son nom ? Est-ce que vous savez ce que veut dire Jézabel ? La première chose que vous avez besoin d'apprendre et de travailler lorsque vous étudiez une personne, lorsque vous voulez comprendre une personne, vous devez étudier son nom. Et faites attention, vous toutes, vous avez reçu un nom, vos parents vous ont donné un nom, mais si vos parents ne vous ont pas donné un bon nom, changez de nom. Jésus a changé les noms de certaines personnes, n'est-ce pas ? Moi, j'aime mon nom. Mon nom veut dire « don de Dieu », Dorothée. Alléluia. J'aime mon nom. Ayez un bon nom. Maintenant, Jézabel avait un nom qui lui correspondait. Jézabel avait un nom qui lui collait à la peau. Jézabel veut dire « sans cohabitation possible ». Mes amis, quand je vous ai dit ça, je vous ai déjà dit beaucoup. La personnalité de Jézabel ne lui permet pas de demeurer avec qui que ce soit. Qu'elle ne peut pas dominer. Jézabel ne peut pas vivre et ne peut pas être en relation, ne peut pas être en communion, ne peut pas avoir aucune relation normale et possible avec quiconque qu'elle ne puisse dominer. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de vivre avec ce genre de personnes. Certains d'entre vous, vous êtes en train de penser, il y a des gens, il est impossible de vivre avec eux. Et certains quand même vivent avec eux et ont sûrement une partie de la grâce de Dieu pour arriver à vivre avec eux. Mais parfois, il y a un esprit de Jézabel qui se cache là. Et je rappelle ici que je ne suis pas en train de faire, vraiment de mettre à terre les femmes. Je parle que l'esprit est un esprit qu'il s'adresse à des hommes comme à des femmes. Il peut être dans la vie d'un homme, il peut être dans la vie d'une femme. Mais dans la Bible, il nous parle d'une femme redoutable qui était Jézabel. Donc, Jézabel ne peut pas avoir une relation normale avec qui que ce soit si elle n'est pas basée sur une relation de domination. Il n'est pas possible de vivre avec elle. Il n'est pas possible d'être marié avec elle. Ou bien, parce qu'elle était mariée, il n'est pas possible d'avoir un bon mariage, un mariage normal et équilibré. Le mariage dans lequel elle était engagée était un mariage basé sur de faux principes, basé sur des principes et des relations qui ne sont pas les relations du mariage. Amen. Donc, mariage équilibré impossible, amitié aussi impossible. L'amitié avec ce genre de personne n'est pas possible. Elle n'est jamais basée sur des relations d'égalité. il n'y a pas d'égalité possible. Lorsque Jézabel paraît douce, lorsqu'elle paraît soumise, lorsqu'elle paraît être en accord, ce n'est jamais qu'elle le soit de cœur. Elle ne l'est pas de cœur. Lorsque ces genres de personnes, si vous voulez, s'adaptent aux situations, semblent d'un seul coup coopérants, ils ne le sont jamais de cœur, ils le sont de tactique. Ils le sont de ruse, ils le sont par stratégie. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne se soumettent à personne. Et s'il y a une soumission, elle n'est qu'apparente pour obtenir quelque chose, pour acquérir quelque chose. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, il n'y a aucune soumission. Jézabel est remplie d'ambition personnelle. Et c'est pour ça qu'elle agit de cette façon-là. Maintenant, pour comprendre la personne de Jézabel, vous devez voir le fruit qu'elle produit. Et quand vous voyez le fruit qu'elle produit, qu'elle est capable de produire, vous comprenez davantage à son sujet. Si vous regardez sa fille, vous savez que Jézabel avait une fille, vous comprenez le genre de personne qu'était Jézabel. Parce que la Bible parle de Jézabel dans l'Apocalypse, donc dans le Nouveau Testament, et il ne nous est pas parlé d'Athalie, il nous est parlé de Jézabel. Ça veut dire que Athalie, dans toute son horreur, n'était cependant pas pire que Jézabel. Parce que la Bible a mentionné l'esprit de Jézabel. Maintenant, regardez le fruit qu'elle produit. Et mes amis, nous nous investissons dans nos enfants. Nos enfants ne seront pas différents de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc sa fille n'était pas différente de ce qu'elle était. Lorsque le fils d'Athalie, donc Athalie était mère, et donc elle a eu un fils, et son fils est devenu roi. Lorsque le fils d'Athalie, donc qui était le petit-fils de Jézabel, est mort, vous savez ce qu'Athalie a fait? Elle a fait détruire toute la race royale, c'est-à-dire chacun de ses petits-enfants. Prenez un petit enfant dans vos bras, prenez un petit bébé, prenez un petit nourrisson, chacun de ses petits-enfants, elle les a fait égorger. Elle les a fait tuer. Et un seul a échappé, c'était Joas, qui a été caché par sa nourrice. Et par la grâce de Dieu, il est arrivé 8 ans plus tard, et il a pris le trône et elle a été tuée. Mes amis, lorsque l'on voit qui était Athalie, on se rend compte quel esprit pouvait avoir Jézabel. Vous voyez ? Et la Bible parle de l'esprit de Jézabel. Et la Bible parle de l'esprit de Jézabel, pas seulement dans l'Ancien Testament, la Bible en parle dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi la Bible a-t-elle eu donc besoin de parler de cette personne qui n'est pas recommandable dans le Nouveau Testament? C'est parce que si cet esprit a existé dans l'Ancien Testament, il faut savoir, nous, Église du Nouveau Testament, qu'il existe aussi dans le Nouveau Testament. Il existe aussi dans l'Église aujourd'hui. Et nous devons le reconnaître et nous devons le vaincre. Et non seulement nous devons le reconnaître et nous devons le vaincre, mais aussi nous devons sonder nos vies et passer au crible de nos motifs, de nos cœurs, de nos dispositions, de qui nous sommes et pourquoi nous faisons les choses. Tout ce qui est à l'intérieur de nous doit passer au crible de la parole de Dieu, afin que cet esprit n'ait rien en nous. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Et les absents ont eu tort. Ok, il faut savoir, à la lumière donc de ce qui s'est passé, notamment avec Athalie, il faut savoir que faire face et s'opposer à ces esprits, c'est parfois même s'exposer à la mort. Et ici, on voit cela dans l'Ancien Testament. On ne connaît pas de cas de mort dans le Nouveau Testament, mais je parle ici dans l'Ancien Testament. S'opposer à l'esprit de Jézabel, c'était faire face à la mort. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui ont payé pour leur vie parce que tous les prophètes de l'Éternel sont morts. Excepté un, Élie. Ok ? Donc faire face à ces esprits, c'est s'exposer à la mort. Et ceux qui survivent sont ceux et seulement ceux qui ont Dieu de leur côté. Écoutez-moi bien. S'il y a du péché dans votre vie, s'il y a du compromis dans votre vie, s'il y a de la faiblesse dans votre vie, ne faites pas face à l'esprit de Jézabel. Parce que pour faire face à l'esprit de Jézabel, il faut être sûr que vous avez Dieu de votre côté à 100%. Vous devez être sans faille. Et il ne doit pas y avoir de brèche ouverte. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Ceux qui survivent à l'esprit de Jézabel sont ceux qui sont loin, et seulement ceux qui sont loin, écoutez-moi bien, de la double onction. vous ne pouvez pas vous opposer, vous attaquer à l'esprit de Jézabel si vous n'avez pas la double onction. Et moi, je crois dans le nom de Jésus que j'ai la double onction. Je crois que j'ai la double onction. C'est pourquoi je suis capable de prêcher et d'enseigner ce sujet. Je suis capable de faire face à l'esprit de Jézabel. Hallelujah. Et je m'y oppose dans le nom de Jésus. Et je le terrasse dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, il faut vraiment avoir la double onction. Et vous devez savoir une chose. C'est que Élie n'a pas vaincu, dans son temps de ministère, Jézabel. Il a subi Jézabel, il s'est enfui loin de Jézabel, elle n'a pas pu le détruire, il a eu la victoire, mais ce n'est pas Élie qui a détruit Jézabel. C'est sous le règne d'Élisée qui a eu la double onction, qui a oint un roi qui s'appelait Jéhu, et de sa double onction à lui, il a pu oindre ce roi, et donc ça sortait donc de son ministère. J'ai eu à terrasser Jézabel. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut marcher avec la double onction, et vraiment la double onction pour pouvoir vaincre cet esprit. Amen. Et mes amis, rappelez-vous que Élie a accompli, si vous regardez dans la Bible, je crois que Élie a accompli 16 grands miracles, 16 puissants miracles. Et puis Élisée était là, il était le vaillant serviteur qui suivait Élie, l'homme de Dieu, le puissant homme de Dieu, qui lorsqu'il a vu son maître partir dans les airs, qui a dit « Maître, maître, moi je veux la double onction, je veux la double onction !» Il a pris son manteau et la double onction pour laquelle il avait marché depuis vraiment Gilgal, depuis Bethel et vraiment de ville en ville et depuis des années, il marchait pour la double onction. Dieu avait mis ce désir dans son cœur parce qu'il lui fallait la double onction pour pouvoir vaincre Jézabel. Lorsque vous voyez le ministère d'Élisée, vous voyez le double de miracles qui se produit du ministère d'Élie au ministère d'Élisée. Il y a littéralement le double de miracles qui parle donc de la double onction du ministère d'Élie au ministère d'Élisée. Qui nous parle vraiment qu'il était loin de la double onction. Amen. Donc la première chose sur la personne de Jézabel, premièrement, vous devez connaître son nom. Son nom veut dire, je vous l'ai dit, cohabitation, sans cohabitation. Deuxièmement, comprendre sa personne, qui elle est, en voyant le fruit qu'elle est capable de produire. Troisièmement, la chose que je voulais vous dire, c'est que Jézabel apparaît dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, donc dans l'Apocalypse. Et si cet esprit a été présent dans le passé, la Bible nous dit aussi donc qu'il est présent encore aujourd'hui. Et quatrièmement, une chose importante sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est que le problème de Jézabel et la personnalité de Jézabel n'est pas tant un problème spirituel premièrement, mais un problème de personnalité premièrement. C'est-à-dire que Jézabel, c'est premièrement un problème de personnalité avant d'être un problème spirituel. Bien souvent, on parle de l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, et on a tendance à mettre tout sur le dos des esprits. On a tendance à mettre tout sur le dos des démons. Mais dans ce genre d'agissement, le problème est bien plus un problème de personnalité avant de devenir un problème spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut chasser les démons dans le nom de Jésus, mais on ne peut pas changer et chasser une personnalité. On ne peut pas chasser la chair dans le nom de Jésus. Et mes amis, la première chose, c'est que Jézabel, c'est un problème de personnalité, un problème de caractère qui n'aura pas été soumis au Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi je vous parle que Jézabel, l'esprit de Jézabel se soumettre au Saint-Esprit? Pourquoi Jézabel se soumettrait au Saint-Esprit? N'oubliez jamais ce que je vous ai dit d'ailleurs lors de ma première réunion, c'est que l'esprit de Jézabel est un esprit idolâtre, n'est-ce pas? Donc c'est un esprit qui aime et qui se plaît dans tout ce qui est religieux. Vous ne voyez pas l'esprit de Jézabel particulièrement dans les boîtes de nuit, vous les voyez plutôt à s'accoler dans les églises, à s'accoler dans les choses qui sont spirituelles, parce que l'esprit de Jézabel aime l'autorité spirituelle. Donc ce n'est pas un esprit que vous allez voir comme ça que dans le monde. Lorsque l'on parle de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aiment à s'infiltrer dans l'Église. Et s'ils ne s'infiltrent pas à 100% de la puissance de son esprit, ils s'infiltrent, vous savez, par petits comportements, par certaines attitudes. Est-ce que vous comprenez cela ? Maintenant, et je parle d'un problème de personnalité, parce que ce genre d'esprit-là, donc, est dans l'Église, parfois entend des messages, dit Amen, Alléluia, n'est-ce pas ? Mais en aucun cas n'aura fait un travail du Saint-Esprit sur nos personnalités. Et mes amis, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne travaillons pas dans nos personnalités. Ne pensez pas, il faut que j'ai la plus belle voix du monde. Ne pensez pas, il faut que j'ai le plus beau don du monde. Ne pensez pas, il faut que j'ai le plus d'onction du monde. Non, mes amis, il faut que vous ayez le caractère selon Dieu. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit agir dans votre caractère, vous ferez des dégâts dans le corps de Christ. Vous ferez des dégâts dans le corps de Christ. Il faut absolument que le Saint-Esprit arrondisse les angles. Lorsque vous venez à Dieu, vous êtes abrupt. Vous êtes comme un diamant qui n'a pas été poli. Vous êtes comme une pierre carrée, tranchante, piquante, qui peut blesser et faire du mal. Mais vous savez, la Bible parle que nous sommes un édifice, que nous sommes une pierre vivante, n'est-ce pas ? Et cette pierre va commencer à être travaillée, travaillée, travaillée par le Saint-Esprit. De sorte qu'elle soit polie, de sorte qu'elle ait une forme, de sorte qu'elle ne blesse plus, de sorte qu'elle ne fasse plus de mal. Est-ce que vous comprenez cela ? Une personne qui entre dans le ministère ou qui veut servir Dieu sans avoir permis au Saint-Esprit d'agir et de changer son caractère, c'est exactement comme si vous mettez un bouc au milieu des brebis, un bouc a des cornes, et un bouc va blesser les brebis. Il va faire du mal. Vous n'avez peut-être pas l'esprit de Jézabel, et gloire à Dieu pour cela, et Dieu merci de ce que vous n'avez pas l'esprit de Jézabel. Mais si vous avez, et si vous voulez servir Dieu, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, si vous voulez prendre soin des gens, si vous voulez avoir un cœur d'amour, laissez le Saint-Esprit agir dans votre caractère et vous changer. Pleurez des larmes de repentance. Pleurez sur vous-même. Apprenez à pleurer de la repentance. La repentance n'est pas que pour le jour du salut. La repentance, c'est pour chaque pas que nous faisons avec Dieu, où nous nous repentons de ce que nous étions, pour que nous avancions et que nous allions plus loin avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela ? Ok, donc bien sûr cette personnalité, et je reviens donc sur le problème de la personnalité, bien sûr que la personnalité de Jézabel agit, parce qu'au bout d'un certain moment, lorsque le caractère n'est pas discipliné, lorsque il y a toute espèce d'agissement, le diable vient dans les habitudes, le diable vient dans le caractère. Par exemple, vous n'êtes pas une personne colérique. Vous n'êtes pas une personne colérique. Mais pour une raison X ou Y, vous commencez à faire une colère chez vous parce que vous pensez que les choses ne vont pas comme elles vont. Puis vous vous rendez compte que vous avez un petit peu, finalement, de pouvoir en ayant une colère, en faisant une colère, en tapant du poing sur la table. Et vous dites, tiens, c'est étonnant, ça a du répondant, j'ai affirmé ma volonté, etc. Et puis revient une situation plus tard, et puis en vous, quelque part, bon, je vais encore me raffirmer. Pourtant, vous n'avez pas cette personnalité en vous. Vous n'êtes pas une personne colérique, mais vous dites, bon, je vais un peu me faire violence et je vais faire une colère. Et donc, vous vous remettez à vous mettre en colère. Et puis, vous allez voir, donc, vous avez de l'impact, parce que ça a de l'impact. Vous allez avoir de l'impact. Et puis, petit à petit, votre personnalité va devenir une personnalité colérique. D'accord ? Alors vous allez être une personne qui allait faire des colères, qui allait impressionner, qui allait faire du, entre guillemets, du grabuge à la maison. Tout va bien encore là parce qu'on est encore dans le problème de la personnalité. Mais si vous continuez encore trop loin, il y a un moment où il y a une limite qui passe du naturel au surnaturel, qui parle du naturel au spirituel. Et là, vous passez d'une personnalité qui a appris et qui s'est appris même à devenir colérique, à un esprit qui vient en vous et qui vous pousse à la colère. Et là, vous rentrez dans le problème de la possession. Et là, vous avez du mal à reprendre les rênes de la situation. Avant, vous décidiez de venir en colère, mais là, vous devenez en colère. Là, vous explosez en colère. Là, vous ne contrôlez plus la colère. C'est un exemple. Mais c'est pour vous expliquer comment vous passez des choses naturelles aux choses spirituelles. Après le naturel vient le spirituel. n'est-ce pas? Si vous commencez, c'est la même chose dans le, tout ce qui est une chose dans le spirituel, dans les choses qui sont mauvaises et démoniaques, sont les mêmes choses dans le naturel. Vous n'êtes pas une personne très aimante, vous n'êtes pas une personne qui a l'habitude d'aller voir les gens, vous n'avez même pas l'habitude d'aider ou d'aimer les gens, n'est-ce pas? Et vous dites, je vais m'efforcer à aider les gens. Alors vous allez venir un jour et vous allez commencer à aider une personne. Vous allez lui offrir du riz, vous allez, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous allez venir faire son ménage à la maison. Vous allez faire quelque chose que ce n'est pas votre personnalité. Vous allez le faire une fois, mais vous allez dire, je vais décider de le faire deux fois. Et vous allez commencer à le faire une deuxième fois. Et vous allez continuer. Et à l'intérieur de vous, votre personnalité va changer. Et vous allez commencer à être une personne qui sait aimer ou aider, ou quelle que soit la chose, les gens. Et puis après, le don va venir. Le don de Dieu va venir et vous n'êtes plus dans un état où vous êtes une personnalité qui allait aider les gens. Vous allez avoir le don de Dieu pour commencer à aider les gens. Et il va y avoir de l'onction, il va y avoir de la puissance, il va y avoir des portes ouvertes, il va y avoir quelque chose de concret. Est-ce que vous comprenez cela? Ça marche dans le naturel, et ça se poursuit dans le surnaturel. Et vaut mieux faire les choses selon Dieu, les bonnes choses, afin que le don de Dieu et l'onction de Dieu entrent dans ces choses, que de faire les choses selon le diable. Et là, ce sont des esprits mauvais, avec des liens, avec des habitudes, des accoutumances. Et il faut, après, et la Bible dit, résister au diable et il fera loin de vous. Et il va vous falloir résister dans votre chair, résister vraiment contre l'esprit pour être libéré. Ce n'est pas simplement une petite prière avec une onction d'huile ou je ne sais trop quoi qui va vous libérer. Ce sera le travail de votre volonté, de votre esprit pour lutter contre ces choses, pour en être libéré. Donc il faut faire attention. À la base, l'esprit de Jézabel est une personnalité qui s'engouffre petit à petit dans l'esprit de Jézabel et qui va être utilisée par des démons, n'est-ce pas? Qui va être utilisée par des esprits mauvais. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, et je vais voir avec vous plusieurs choses. Premièrement, nous allons voir ensemble l'esprit de Jézabel dans la maison. Et puis, nous allons voir l'esprit de Jézabel sur les leaders. L'esprit de Jézabel, donc, qui exerce son influence sur les leaders. Et puis après, nous allons voir l'esprit de Jézabel. Donc les leaders, quand je parle des leaders, je ne parle pas de leaders spirituels. Je parle des gens qui sont des leaders dans le monde, des dirigeants, etc. Après, l'esprit de Jézabel et les prophètes. Et donc là, c'est l'esprit de Jézabel et les serviteurs de Dieu, en fait. Et après, nous verrons ensemble l'esprit de Jézabel dans l'Église. Est-ce que ça vous va? Ok. Alors nous commençons par l'esprit de Jézabel dans le foyer. Vous savez, on va parler un petit peu du foyer. Comment ça va vous à la maison? C'est bon de savoir un petit peu ce qui se passe dans la maison. Vous savez, Jézabel, elle savait qui elle était. C'était la princesse du royaume de Sidon. Son père était roi. Elle savait qui elle était et elle savait jouer de son autorité. En tant qu'épouse, la Bible parle du rôle de la femme. Et mes amis, quand la Bible parle du rôle de la femme, la Bible parle, ne met et n'a jamais mis, parce que la Bible n'est pas une parole qui vient pour opprimer ou oppresser les gens. La Bible parle de l'épouse, du rôle de l'épouse, afin qu'elle soit bénie, afin qu'elle soit libérée, afin qu'elle ait des victoires dans certains domaines de sa vie où il y a des situations qui bloquent. Et la Bible donne de la sagesse aux femmes pour savoir comment vivre, gérer des situations avec leur mari. La Bible parle donc que les femmes doivent s'adapter à leur mari. Et j'aime cette version, s'adapter à leur mari. Les femmes, les épouses, ont vraiment ce rôle, ce devoir de connaître, de comprendre leur mari et de s'adapter aussi à eux. Ça veut dire que les maris, bien sûr, ça ne veut pas dire que les femmes doivent s'adapter à des choses qui ne sont pas selon Dieu. Okay, je ne vais pas refaire tout un cours sur le mariage ce soir. Hein. Donc vous devez comprendre ce que je veux dire. Sinon, on n'aura pas terminé. Mais ça veut dire que la femme est censée s'adapter pour qu'il y ait une harmonie spirituelle, pour qu'il y ait une bénédiction dans tous les domaines du couple. Donc elle est censée s'adapter à son mari. Et ce n'est pas à son mari à suivre et courir derrière sa femme et à chercher à s'adapter à après sa femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de couple. Et sans être religieux, sans même penser... D'ailleurs, même les gens du monde pensent comme cela. Sans même penser la femme doit être soumise ou toutes ces choses. Est-ce que vous avez déjà vu des couples où le mari court derrière sa femme, où le mari cherche à plaire à sa femme, faire attention, surtout bien attention que sa femme ne soit pas en colère, et bien mettre les chaussons avant de rentrer dans la maison, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Et vous n'avez pas trouvé que c'était misérable? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que le mari doit être un dictateur et que la femme doit se plier et trembler, etc. Bien sûr, Dieu est un Dieu d'harmonie et d'équilibre. Mais pour en revenir à Jézabel, Jézabel n'était pas et profondément pas une femme qui allait s'adapter à son mari. C'était une femme qui avait décidé de tenir les rênes. Et elle tenait les rênes de son couple. Et mes amis, mesdames, c'est dangereux si vous tenez les règles de votre couple. Je vous le dis ce soir, si c'est vous qui tenez les rênes, c'est dangereux. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à tenir les rênes. Vous savez, j'aimerais faire une parenthèse. Le couple, c'est le couple. Le ministère, c'est le ministère. Dieu ne mélange pas le couple et le ministère. Est-ce que vous comprenez ? Vous pouvez être appelé par Dieu sans que votre mari soit appelé par Dieu. Et gloire à Dieu pour cela. Faites-le avec intelligence. Ça ne veut pas dire que vous devez dominer dans votre foyer. Comprenez ça? Mélangez pas tout. Soyez libre dans les choses que Dieu vous appelle à faire. Mais à la maison, respectez ce que la Bible déclare. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Votre mari peut être appelé par Dieu sans que vous soyez appelé par Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais voyez-vous, il y a un ordre pour toutes choses. Et lorsque je parle du couple, je parle du couple. Je ne parle pas du ministère, je parle du couple. N'est-ce pas? Ok. Donc, Jézabel était une femme qui insistait pour diriger en tant qu'épouse. Et mes amis, lorsque nous insistons pour diriger en tant qu'épouse, c'est-à-dire vraiment tenir les rênes, nous devons savoir une chose, nous n'avons pas été ointes pour cela. Oh, c'est bien calme. Ouh. Nous n'avons pas été ointes pour cela. C'est pour ça qu'il y a eu ce terrible problème dans le jardin d'Éden où Ève a pris le commandement et Adam donc, a suivi sa femme alors qu'il était responsable. Okay, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je vais revenir sur ça. Maintenant, si vous regardez dans un roi, prenez simplement la référence, dans 1 roi 16 et 1 roi 21-25, on va voir ensemble. On va tourner quand même. J'aimerais juste faire une parenthèse. Lorsque je dis que la femme n'est pas ointe pour diriger, je ne veux pas dire que le mari et la femme ne dirigent pas ensemble. En fait, le meilleur que Dieu a prévu, c'est que le mari et la femme dirigent ensemble. N'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y a de la discorde et qu'on n'est pas d'accord, je pense qu'il est important de prier, de se mettre de côté, de prier, d'attendre. Mais le mieux, donc, c'est le mari et la femme qui décident ensemble et qui tombent d'accord ensemble et d'accord de cœur, d'accord honnêtement et sincèrement. Maintenant, quand je dis la femme n'est pas, l'épouse n'est pas ointe pour diriger, je veux dire que les femmes doivent faire attention lorsqu'elles frappent du poing sur la table en disant « ça se passera comme ça » parce que je crois que c'est la vérité et que c'est comme ça. Là, je dis qu'elles doivent faire attention. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'elles prennent les rênes des situations. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez perdu votre joie? Vous savez, moi, je n'ai aucun problème avec ces versets de la parole de Dieu. Je crois qu'ils sont vrais, je crois qu'ils sont bibliques. Et mon mari et moi, par exemple, nous sommes toujours d'accord sur tout. Et gloire à Dieu pour cela. Et lorsque je ne comprends pas toujours sa démarche, eh bien, je sais qu'il est sage, je sais qu'il est intelligent et je lui fais confiance. Vous comprenez ? Je ne parlais pas évidemment des couples où il y a des problèmes, où il y a un mari donc qui n'est pas chrétien, etc. Je parle de couples dans le Seigneur. D'accord ? Regardons ensemble dans 1 Roi 16 et on va voir donc Jézabel. Ok, 1 Roi 16, il est écrit donc à partir du verset 29. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Azar, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si, pour lui, c'était peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, tournez dans 1 Roi 21. Et regardez ce qui est écrit. Au verset 25, il est écrit « Et il n'y eut personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Vous savez, nous ne sommes pas dans une situation où nous avons une femme passive. Nous avons une femme là qui tape du poing sur la table, qui dit comment les choses vont se passer, qui dicte ce qui va se passer et une femme qui tient les rênes. Ok. Il est dit donc que Jézabel excitait Achab à faire le mal et elle avait donc une grande influence sur son mari au point de le détourner de Dieu. Ok, maintenant écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas mariés, parce qu'on parle du couple un petit peu, nous ne sommes pas mariés, écoutez-moi bien, pour exercer une influence sur notre mari ou sur notre femme. Et c'est vraiment dans les deux sens. Deuxièmement, bien souvent, dans le couple, même chrétien, l'un détourne l'autre des voies de Dieu à cause de son influence. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu des couples et l'un qui exerce l'influence sur l'autre et qu'il quitte les voies de Dieu ou il part dans d'autres situations à cause de l'influence? Attention à l'influence qu'on exerce. Si vous êtes marié ici et que dans votre couple vous exercez de l'influence, vous devez vous en rendre compte. Attention à l'influence que vous exercez, à ce que cette influence ne combatte pas Dieu. Ok ? Luttez pour ce que vous savez être selon Dieu, mais ne luttez jamais pour vos propres intérêts. C'est une sécurité. Donc mes amis, on se souviendra d'Achab. Et une des choses pour lesquelles on se souviendra d'Achab, c'est qu'il a bâti un hôtel à Astarté. Et mes amis, on se souviendra tous les uns des autres pour une chose. Et il y a une chose pour laquelle on doit se souvenir de nous. Ce n'est pas de ce qu'on a été une personne de grande influence, mais ce qu'on a été une personne selon Dieu. Et ça fait la grande différence. Maintenant, comprenez bien. Le contrôle de Jézabel sur Achab a fait exploser la colère de Dieu. Vous êtes au courant de cela? Dieu a vraiment libéré sa colère. Le jugement est venu sur la nation à cause du contrôle qu'exerçait Jézabel sur Achab. Mais remarquez, lorsque la colère de Dieu s'est enflammée contre Achab, parce que seul Achab était responsable de la situation. Ça veut dire que lorsque vous êtes un chef de foyer, vous êtes encore, quel que soit l'esprit auquel vous faites face, Bien sûr, on n'est pas dans une réunion d'hommes, là. Mais vous êtes encore responsable de ce qui se passe sous votre toit selon Dieu. N'est-ce pas? Achab, aux yeux de Dieu, et même si et Jézabel était une sidonienne, et même si Jézabel, c'était elle qui jouait des coudes, Achab, aux yeux de Dieu, était le responsable de cette situation dans toute la nation d'Israël. Maintenant, la personne d'Achab. Achab était un mari faible. C'était un mari lâche, affable. C'était un mari qui, sur bien des points, était infantile, puéril. Mais mes amis, comprenez ceci. Il faut un Achab. Et j'écrivais ça cet après-midi. Il faut un Achab pour qu'une Jézabel devienne une vraie Jézabel. Il faut véritablement un Achab. Et, qui était Achab et quelle était sa personne pour qu'une Jézabel ou des personnes qui ont des tendances ou qui agissent dans certains points comme Jézabel deviennent de véritables et redoutables Jézabel. Vous avez déjà pensé peut-être, oh comment se fait-il que son mari ne l'arrête pas? Vous avez déjà vu des couples et vous dites pourquoi le mari ne fait rien? Pourquoi le mari ne dit pas à sa femme ceci ou cela? Pourquoi le mari n'arrête pas sa femme? Moi, j'ai vu des couples, je peux vous dire, et des couples chrétiens. Je me demandais ce que le mari faisait. Je me demandais quand le mari allait faire taire sa femme. Et je crois que les femmes sont appelées. Amen. Et je crois que les femmes ont une voix. Et je crois dans les femmes. Je crois profondément dans les femmes. Mais il y a eu des situations où je me disais, quand est-ce que le mari va dire à sa femme ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire? Quand est-ce qu'il va lui dire comment se comporter? Parce que sinon, nous, les pasteurs, c'est notre responsabilité si le mari ne le fait pas. Alors nous, on préfère que le mari le fasse. Parce que ça nous évite bien des problèmes. Mais vous savez, il faut un Achab pour qu'il y ait une véritable Jézabel. Ça veut dire que quand vous faites face à un esprit de Jézabel, et que vous ne vous y opposez pas, vous lui permettez de devenir ce qu'elle est. Vous comprenez? Un esprit de Jézabel, il faut s'y opposer. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous y opposer. Parce que si vous ne vous y opposez pas, comme c'est un esprit vraiment qui est sans limite, un esprit qui n'a pas de frontières, un esprit qui veut toujours plus, un esprit qui n'est jamais satisfait. Si vous ne vous y opposez pas, eh bien, cet esprit-là, ou ces comportements-là, vont donner l'opportunité à la personne de devenir une véritable Jézabel. Et donc, ce genre d'esprit, vous devez vous y opposer, que ce soit, et pas seulement dans le naturel, vous devez vous y opposer dans le spirituel. Vous devez vous y opposer dans la prière, et vous devez vous y opposer aussi dans le quotidien. Vous devez faire barrage à cet esprit. C'est difficile. C'est une tâche ingrate, personne ne veut le faire, mais vous devez le faire. Sinon, cet esprit-là, je peux vous dire, si toute l'Église mettait ce message en pratique, il n'y aurait plus de problème de comportement dans l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas ici, simplement je parle dans le corps de Christ. Si nous nous opposions à tous ces comportements qui sont... pas tous les comportements, mais ce genre de comportement-là, qui viennent de l'esprit de Jézabel, il n'y aurait pas une recrudescence de ces choses si nous faisions chacun notre part. Notre part et notre devoir, c'est de s'y opposer. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que l'esprit de Jézabel se décuple en puissance quand il ne rencontre plus d'opposition. Écrivez ça. Vous dormez ce soir? Est-ce que je vous endors? Dites-le-moi, encouragez-moi. Vous êtes attentifs? Ok. Alors, ok, ce que j'aimerais que vous écriviez, c'est que l'esprit de Jézabel se décuple en puissance, c'est-à-dire il se multiplie lorsqu'il ne rencontre pas d'opposition. Comprenez cela? Et écrivez aussi, il faut un Achab pour qu'une Jézabel devienne une véritable Jézabel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque le pasteur, lorsqu'une autorité spirituelle, lorsqu'un responsable vient vous arrêter, vient s'opposer à vous, écoutez-moi bien parce que c'est important. Lorsqu'une autorité spirituelle, lorsqu'un responsable, lorsque quelqu'un vient vous arrêter dans certains domaines et à cause de certaines choses, ne soyez pas offensés. La Bible dit que celui qui raidit le coup sera brisé, détruit promptement. Prenez ces avertissements, ces arrêts, comme une grâce de Dieu, comme quelque chose de positif. Rappelez-vous ce que le pasteur Bilek a dit de l'estrade dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas offensé. Ne soyez pas blessés. Prenez les choses positivement. Prenez les choses comme venant de Dieu. Lorsque l'on a mis et qu'on en a soumis sa vie à Dieu, mes amis, on doit prendre les choses comme venant de Dieu. Parce que parfois, s'opposer ou se raidir, c'est ne pas comprendre un problème que l'on a dans notre vie. Et bien souvent, je vais vous dire, on est bien aveugle sur nous-mêmes. Il faut le dire. Et parfois, c'est les gens et les situations qui nous ouvrent les yeux si nous ne raidissons pas le coup. Si nous apprenons à regarder à nous-mêmes. Amen. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok. Très important parce qu'on est en train de parler d'Achab. Lorsqu'une personne vit avec ce genre d'esprit, un esprit de Jézabel, voilà en quelques mots ce qu'il va se produire si la personne ne s'oppose pas à cet esprit. Un, vous pouvez écrire, la personne va apprendre rapidement à s'effacer. Ouyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy rebelle et qu'il ne s'y oppose pas, il va rapidement apprendre à s'effacer, à laisser de côté son opinion. L'autre a d'emblée raison sur vous. Est-ce que vous comprenez ? Troisièmement, vous laissez les autres décider pour vous. Vous laissez la personne avec laquelle vous vivez décider pour vous parce que c'est plus facile, parce que vous ne voulez pas lutter. Vous comprenez ? Vous avez peur de vous opposer par crainte d'un conflit, d'une dispute. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez noté cela, c'est important. On recommence. La personne apprendra vite à s'effacer, à laisser de côté son opinion. L'autre a obligatoirement raison. Voilà la pensée. À décider pour vous. Et vous apprendrez rapidement à ne plus vous opposer de peur de faire face encore à un conflit ou à une dispute. Oui, c'est l'esprit de Jézabel. Maintenant, écoutez-moi bien. L'esprit de Jézabel n'est pas simplement, ici on voit le problème d'un couple. On est en train de détailler, de décortiquer le problème d'un mari et d'une femme qui s'appelle Achab, Jézabel. L'esprit de Jézabel n'est pas seulement dans des relations de couple. Il est dans des relations soi-disant amicales. Il est dans des relations parents-enfants. Parents sur des enfants. Il est dans des relations familiales. Il est dans des relations parfois enfants-parents, où des parents se trouvent dans cette situation-là par l'intimidation que leur impose leur enfant, ou donc le contraire. Il est dans toute espèce de relation. Donc ne limitez pas ces choses à des relations mari et femme. Il faut faire le point dans nos vies, dans toutes les relations que nous avons les uns avec les autres. Est-ce que nous sommes, est-ce que nous agissons, est-ce que nous utilisons les méthodes d'un esprit de Jézabel dans une des relations que nous pouvons avoir avec des personnes avec qui nous sommes en contact, c'est pas des personnes qui sont à 15 km de vous, hein. Vous savez, ce genre de relation, ce genre d'esprit, c'est toujours c'est du face-à-face, hein. Mais dans quel type de relation ? Alors, est-ce que nous sommes des acteurs de cet esprit de Jézabel ? Donc, nous agissons selon certaines caractéristiques de cet esprit ? Ou bien est-ce que nous sommes des gens qui subissons dans certaines relations ce genre d'esprit ? Est-ce que vous comprenez ? Et si nous subissons ce genre d'esprit, il faut s'y opposer à ce genre d'esprit. Un jour, tôt ou tard, il faudra se lever et dire gentiment et calmement non. Non. Non pour telle raison. Non parce que j'ai raison. Non parce que tu n'as pas le droit d'empiéter sur ma vie. Non parce que tu n'as pas le droit d'empiéter sur mon opinion. Non parce que tu n'as... Ce n'est pas une rébellion spirituelle. Comprenez, ça ne met pas de... Vous savez, les gens qui agissent droitement, on peut dire non. Il est possible de dire non. Les gens qui disent non ne détruisent jamais l'Église. Les gens qui disent non ne font jamais de division. Les gens qui font les choses selon Dieu ne creusent jamais de problème. Dire non n'est pas un problème. Quand il est dit et motivé par des choses qui sont pures et saintes, par des choses qui sont vraies. Comprenez ? Dire non lorsque votre leader vous dit « sois à l'heure », vous avez tort. Vous devez être à l'heure. Comprenez ? Mais dire non lorsque l'on fait de l'ingérence dans votre vie, vous avez raison. Est-ce que vous comprenez ? Parce que l'esprit de Jézabel, c'est vraiment un esprit d'ingérence. Ok. Donc voilà pourquoi le couple Achab-Jézabel était un couple marié, mais n'était pas un couple qui pouvait fonctionner normalement. Aucune relation saine ne peut être sur cette base où tu agis, tu tiens les rênes et moi je me tais. Aucun mariage ne peut être heureux comme cela. Ce n'est pas possible. Personne ne peut vivre heureux sous des ordres et sous des commandements. Ce n'est pas possible. Comprenez ? J'ai rencontré peu de Jézabel. Je vais vous faire une révélation ce soir. J'ai rencontré très peu de Jézabel, mais j'en ai rencontré. Parce qu'il y a très peu de véritables Jézabel. Des gens, donc, qui vont intégrer tout ce qui fait vraiment la mauvaise personnalité et le mauvais esprit de Jézabel, qui vont utiliser toutes ces techniques. Mais, écoutez-moi bien, mais, par contre, j'ai rencontré beaucoup de petits Achab et de petites Jézabel. Ouïouïouïouïouï. J'ai pas rencontré beaucoup de Jézabel en puissance. J'en ai rencontré très peu. Ça doit même tenir sur les doigts d'une main. Mais j'ai rencontré beaucoup de petits Achab et beaucoup de petites Jézabel. Ça veut dire quoi ? Vous comprenez pas ce que je veux dire ? Ça veut dire j'ai rencontré beaucoup de gens. Ah, ils n'avaient pas toute la plénitude de Jézabel. Ils n'avaient pas toute l'envergure de Jézabel. Mais ils en avaient certaines caractéristiques, véritablement. Et nous devons vérifier qui nous sommes et nous devons changer. Et je vous dis, si vous écoutez ce message et que ce message vous parle, ce message vous reprend, changez rapidement. Luttez contre vous-même, luttez contre vos habitudes, luttez contre votre tyrannie. Résistez à l'esprit qui vous anime et il fuira loin de vous. La parole le déclare. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Résistez à ces choses qui vous animent. Et elles fuiront loin de vous. Ça prendra du temps. Mais vous devez décider et déterminer ce soir, si vous écoutez ce message, et vous avez eu la première partie explique en détail le fonctionnement de l'esprit de Jézabel. Alors résistez contre ces choses. Amen. Ok, je voulais vous parler de Achab, mais je ne vais pas vous en parler plus. Je vais avancer, peut-être si on a le temps à la fin, et parce que j'aimerais donc boucler ce soir. Deuxième chose qu'on va voir ensemble, l'esprit de Jézabel et les leaders. Mariage ou le foyer, ou avec son mari maintenant, l'esprit de Jézabel et le leadership. Alors, ce que vous devez comprendre, cet esprit ne cherche pas à influencer premièrement des amis, des proches, des voisins. Non, 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 non. Cet esprit cherche à influencer et à dominer exclusivement les têtes. Le voisin, le gentil bon camarade, la personne qui n'a pas de responsabilité, la personne qui n'a pas d'influence, la personne qu'on ne remarque pas, elle ne les remarque même pas non plus. ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, ceux qui dirigent, ceux qui dominent, ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont à la tête, ce sont ces personnes qui sont directement ciblées. Parce que Jézabel veut prendre leur place et Jézabel veut diriger à leur place, donc il faut qu'ils, pour cela, elle puisse les dominer. Vous comprenez ? Donc c'est sa cible. Jézabel, comprenez, Jézabel a été à elle seule une femme qui sort de la nation de Sidon, qui va dans la nation d'Israël. À elle seule, et je dis elle seule, elle est responsable, et la Bible dit, de la corruption de tous les dirigeants de la nation et de la corruption de toute la nation. Premièrement, tous les dirigeants, deuxièmement, toute la nation. Donc sa cible n'est pas premièrement les gens en bas, premièrement les gens en haut. Une femme toute seule qui a corrompu à elle seule toute la nation d'Israël. On ne fait pas face à un petit esprit. N'est-ce pas? Amen, 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 amen. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, et j'étais dans le ministère avec ma mère avant même de venir dans cette église. Lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, lorsque je suis venu ici, il y avait des gens ici, dans cette église. Il y a de la puissance. Il y a de l'onction. Il y a matière pour une personne corrompue, pour une personne qui n'est pas droite de cœur. Il y a matière à avoir un intéressement personnel. Est-ce que vous comprenez ? Je ne suis pas en train de vous dire, une personne qui vient à la tête, si son cœur n'est pas pur, peut être facilement corrompue. Vous savez, les gens sont corrompus par les richesses. Les gens peuvent être corrompus par toute espèce de choses. Quand je suis venue dans ce ministère, et Dieu m'est témoin, et je peux vous raconter ce témoignage, dans 10 ans, je vous raconterai encore le même. J'ai mis 2 choses en pratique en venant ici. Ici, il y avait de la puissance. Ici, il y avait des gens. Les gens, c'est de la puissance, n'est-ce pas? Ici, il y avait de l'onction. Ici, il y avait toute espèce de choses. Il y avait déjà une structure. C'était un ministère déjà donc, qui était bâti. Et il y a 2 choses que j'ai mis en pratique. Simplicité, humilité. Simplicité, humilité. Simplicité, humilité. C'est le seul moyen de terrasser l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel veut le contrôle et l'élévation. Si vous faites face à ce genre de personnes, vous devez agir et marcher selon l'esprit. Vous êtes témoin et il n'y a personne ici qui peut me contredire. Et je peux me glorifier ce soir. Je peux le faire. Et je n'ai pas honte de le faire. Quiconque, lorsque je suis venu ici, je prêchais déjà. J'ai fermé ma bouche. J'ai commencé à prêcher, j'avais 20 ans. Quand je suis venue dans ce ministère, je n'ai rien fait. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je me suis assise. Et c'est même pas le fait de prêcher, ça n'a même rien à voir avec cela. Même si vous n'avez jamais, je n'aurais ouvert ma bouche. J'ai appliqué 2 choses. Simplicité, humilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire? Est-ce que je n'ai pas toujours usé de simplicité et d'humilité? Vrai ou faux? Dites-le-moi. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais lorsque j'ai usé de simplicité et d'humilité, je faisais face à des personnes qui, à l'époque, étaient encore dans l'Église, qui avaient des caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Vous comprenez? Et donc, j'ai dû vaincre ces esprits dans le cœur des gens. Et je sais que l'Église en a été entièrement libérée. Et je sais que ces lieux sont saints et purs. Et je sais que les gens ici, vraiment, d'une manière générale, les gens ici ont un cœur pur. Les gens ici ont un cœur droit. Les gens ici aiment Dieu de tout leur cœur. Les gens ici veulent servir le Seigneur. Et il y a toujours des problèmes, il y a toujours des petites choses. Mais ce ne sont que des petites choses. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous le dis dans le nom de Jésus, j'ai sanctifié des cœurs, des attitudes par mon attitude. Ça ne veut pas dire que ces gens qui étaient droits de cœur ont changé leur attitude, mais ça veut dire que les gens qui pouvaient être influencés par leur attitude ont changé. Est-ce que vous comprenez cela ? Humilité, simplicité, humilité, simplicité est capable de vaincre des attitudes. Amen. L'esprit de Jézabel. Dans l'Apocalypse, et vous prenez la référence Apocalypse 2:20, est responsable de la corruption, et on va le voir juste après, mais elle est responsable, on a vu ici, de la corruption de tous les dirigeants, de la corruption aussi de toute une nation, mais aussi de la corruption de tous ceux qui étaient dans les choses spirituelles. Regardez avec moi dans Apocalypse 2:20. On va le lire ensemble. Ça, vous l'aurez devant les yeux. Il est dit, donc nous sommes dans l'église de Thyatire. Il est dit, voici ce que le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, voici ce qu'il dit. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. C'est l'église de Thyatire. Ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa dépouille. Je vous ai dit que l'esprit de Jézabel ne se repent jamais. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Donc, elle était... Et elle était et elle est donc dirigée vers tout ce qui est leader. Maintenant, nous voyons l'esprit de Jézabel et les prophètes. Les prophètes, ce sont les serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous une chose. L'autorité de Dieu n'était pas représentée par des pasteurs. Amen. N'était pas représentée par des enseignants, ni par des docteurs, ni par des apôtres. L'autorité spirituel de Dieu sur la terre était représenté bien avant d'ailleurs le roi. Le roi était là pour diriger, mais l'autorité spirituelle de Dieu était représentée par le prophète. Le prophète oignait le roi. Le prophète parlait de la part de Dieu. Le prophète était l'autorité de Dieu sur terre. Maintenant, nous savons que trois étaient oints par Dieu. Nous savons que les rois, les prophètes et les sacrificateurs, mais ceux qui avaient l'autorité spirituelle étaient les prophètes. Amen. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Ça nous parle de l'esprit de Jézabel. Oh, c'est tellement important que je voudrais aller tellement doucement pour expliquer le plus. Aussitôt reine, aussitôt la bague au doigt, c'est le type même de l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a fait, elle a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel et les a fait remplacer par ses propres prophètes. C'est-à-dire les prophètes sur lesquels elle avait toute autorité et tout contrôle. Qu'est-ce que fait l'esprit de Jézabel? Premièrement, il détruit tout opposant. Tous les prophètes de l'Éternel, elle les a détruits, elle les a persécutés, elle les a chassés. Rappelez-vous qu'il y en avait même qui étaient cachés dans des grottes, qui ont passé des années à boire du pain et de l'eau. Vous vous rappelez de cela? La première chose qu'elle a fait, passer au fil de l'épée tous les prophètes de l'Éternel. Détruire premièrement toute opposition, toute rébellion, toute contestation. Deuxièmement, placer ces gens à elle, dans la position d'autorité, des gens qui lui seraient entièrement soumis, des gens qui lui seraient entièrement sur lesquels elle avait toute domination, des gens qui n'ouvriraient jamais la bouche contre elle. C'est sérieux. Dieu est grand. Oh, Dieu est plus grand que l'esprit de Jézabel. Mais je décortique là l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on est en train de prendre une langouste, là on la décortique, morceau par morceau. On lui enlève la carapace, on voit son corps, on voit ce qu'elle est véritablement. Jézabel était profondément corrompue. Jézabel n'avait aucun respect pour Dieu. Comprenez bien. Jézabel est toujours dans les choses de Dieu. Jézabel a des prophètes. Tout, on parle de choses spirituelles, on parle de Dieu, on parle de la Bible, on parle de blablabla. Mais à l'intérieur d'elle-même, Jézabel n'a aucun respect pour Dieu. Elle n'a de respect que pour elle-même. Elle n'a aucun respect pour Dieu et elle ne craint profondément pas Dieu. Profondément pas Dieu. Elle n'a pas peur de s'opposer à Dieu. Elle n'a pas peur de se lever contre Dieu. Elle n'a pas peur de se lever contre les hommes et les femmes de Dieu. Elle n'a pas peur de s'opposer à l'onction de Dieu. Elle n'a pas peur de Dieu. Mais elle a tort. Elle a tort. Elle a bien tort. Parce que sa fin a parlé de sa vie. Et nous allons terminer, mes amis. Nous allons terminer avant de nous quitter. Nous n'allons pas nous quitter sans avoir parlé de sa fin. Oh, Jesus. Ok. Elle a tué tous les prophètes. Et la plupart, en fait, des prophètes de l'Éternel, sauf un. Mes amis, un. Elle a été incapable de le détruire. Le seul qu'elle a été incapable de détruire, c'est Élie. Élie fut délivré donc des mains de Jézabel. Mais, bien qu'Élie ait survécu à Jézabel, bien qu'il ait échappé de ses mains, Jézabel a réussi à le mettre malgré tout dans une grande détresse. Est-ce que vous comprenez ça? Il est passé malgré tout par des moments terribles d'oppression. Et donc ce n'est pas lui qui a réussi à vaincre Jézabel, c'était Élisée qui a dû être oint de la double onction pour pouvoir mettre à mort donc cette femme. Si vous êtes encore avec moi. Ok, il y a des choses que je vais devoir passer. Ok, maintenant je vais revenir un petit peu sur Élie. Élie, rappelez-vous d'Élie, pour vous parler donc de l'esprit de Jézabel et de ce qu'il produit. Élie était un homme de Dieu. Élie est tombé dans une dépression terrible lorsque Jézabel s'est levée contre lui, et pourtant Élie venait d'accomplir l'un des plus grands miracles qu'il avait accompli dans tout son ministère. Probablement le plus puissant des miracles qu'il avait accompli. Le feu était tombé. L'autel avait été détruit. La chair, la viande, les pierres, le bois, l'eau, la terre, consumée. Il avait égorgé à lui tout seul 850 hommes. 450 prophètes d'Astarté, 400 prophètes de Baal. Le contraire d'ailleurs. Peu importe. Ils les avaient tous détruits. Il venait d'accomplir le plus grand prodige. Et lorsque Jézabel s'est levée contre lui, il a perdu toute sa force. Deux émotions surviennent quand on est en contact avec l'esprit de Jézabel. Premièrement, vous êtes vidé, vous êtes épuisé. Et Élie était dans un état d'épuisement. Et deuxièmement, vient un état de dépression. Un profond découragement, une envie d'abandonner. Une envie d'abandonner. Même une envie de mourir. Ça, c'est l'influence de l'esprit de Jézabel. Donc Dieu a dû s'occuper d'Élie. Il a dû le mettre dans un profond sommeil pour qu'il oublie un petit peu le traumatisme par lequel il est passé. Il lui a envoyé un ange pour le servir. Il lui a servi un repas, n'est-ce pas? Il a dû lui donner une nouvelle mission pour l'encourager parce qu'Élie était bien bas. Donc voyez ce que fait l'esprit de Jézabel, raison pour laquelle il faut s'y opposer dès les premiers signes. Pas attendre que là Jézabel était Jézabel dans toute sa puissance, dans toute sa force. Mais il ne faut pas attendre de terrasser cet esprit quand il est même au commencement. Il faut l'arrêter rapidement. Maintenant, l'esprit de Jézabel dans l'église. Vous êtes toujours dans Apocalypse 2 ? Alors, j'aimerais donc, on l'a lu ensemble, je ne vais pas le relire. Simplement, je vais vous rappeler les points. Premièrement, qu'est-ce qu'il est dit ? Jézabel dans l'église. 1. La Bible dit, elle se dit, elle se proclame prophétesse. Elle s'autoproclame. Deuxièmement, elle séduit et elle débauche les serviteurs de Dieu. Mes amis, pour arriver à débaucher les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que l'esprit de Jézabel fait aujourd'hui dans notre temps, dans notre époque ? Est-ce que l'esprit de Jézabel peut faire en sorte que des serviteurs de Dieu... Quand on dit des serviteurs de Dieu, je ne veux pas simplement dire des gens qui sont dans les cinq ministères, je parle des gens qui ont vraiment un cœur pour servir Dieu, pour aimer Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vous et moi, c'est tout le monde et c'est n'importe qui. Des gens qui ont un cœur de servir Dieu. Elle est capable de les débaucher. Ça veut dire quoi ? Ils ont des intentions pures, ils ont des intentions droites, et elle est capable de mettre en eux des choses qui n'y sont pas. De la convoitise, mais pas de la convoitise sexuelle, évidemment. De la convoitise pour le ministère. De la convoitise pour des choses qui ne leur appartiennent pas. De la convoitise pour des choses que Dieu ne leur a pas données. De sorte que ces personnes... Voilà ce que produit l'esprit de Jézabel. De sorte que ces personnes vont être des dangers dans le corps de Christ, vont faire toute espèce de mal, vont vouloir s'élever parce qu'elle les a corrompus. Il y a des gens qui sont passés entre certaines mains d'un esprit de Jézabel. Ils ne s'en sont jamais remis dans leur vie spirituelle. Ils sont profondément hors service. À la casse, vous pouvez les mettre à la casse. À moins qu'ils ne changent leur esprit, ils sont inutilisables pour Dieu. Et vous savez ce qu'ils font ? Ils essaient d'ouvrir une église et ils disent « Je suis pasteur ». Et ils prennent 2, 3, 4, 5 personnes et ils disent « Je suis pasteur ». Ils sont profondément corrompus à mettre à la casse. C'est pas nous qui les mettons à la casse. Dieu a mis ces gens à la casse. Ils sont hors service. Ils ne feront jamais rien pour Dieu. Ils ne pourront jamais rien faire. Parce que Dieu ne les oindra jamais. Parce que Dieu n'ouvrira jamais une porte. Ils n'arriveront qu'au point où ce que leurs muscles arriveront à accomplir. Mais avec Dieu, ils ne feront jamais rien. L'esprit de Jézabel est capable de débaucher, et quand je parle de débaucher, c'est de corrompre dans la pensée, dans la pureté des sentiments et des intentions du cœur des personnes, de sorte qu'ils deviennent inutilisables pour Dieu. Maintenant, ils essaient toujours de faire des choses pour Dieu. D'ailleurs, ils ne font pas les choses pour Dieu, ils les font pour eux-mêmes. Mais ils sont corrompus de l'intérieur. Ne leur ressemblez pas, ne soyez jamais impressionnés. Les gens qui viennent, qui vous disent, d'ailleurs la plupart du temps avec arrogance, je suis pasteur et je suis ceci et moi je suis cela. Ne vous laissez pas impressionner, ne pensez pas que vous êtes rien, ne pensez pas que vous, Dieu ne vous utilise pas. Ils sont déjà dans les fiels de l'enfer. Ils ne servent pas Dieu. Dieu un jour fermera la porte sur ces personnes en disant, vous avez prophétisé, vous avez utilisé mon nom, vous avez bien rigolé, vous en avez bien profité autant que vous en avez pu, mais je ne vous connais pas. Hors de ma présence, je ne vous connais pas. Alors ne soyez pas impressionnés par ces gens. Ne pensez pas que parce qu'ils se gonflent même, ils sont quelque chose. Suivez simplement, avec simplicité et humilité, ce que Dieu vous a demandé de faire, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle, jusqu'à son retour. Faites simplement et avec humilité ce que Dieu vous demande de faire. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Amen. Ok. Elle débauche. Juste le mot débauche. Ok. Donc, les gens n'ont plus en eux-mêmes donc, l'esprit de Dieu. Ils sont animés par un autre esprit qui est un esprit religieux. Ça rejoint donc ce que je viens de vous dire. Qui est un esprit religieux mais démoniaque qui détruit l'Église et l'Esprit de Dieu. Donc voilà donc la débauche qu'elle produit. Okay? Il est dit donc qu'elle sera jetée sur un grand lit, sur un lit avec une grande tribulation, avec tous ceux qui ont été adultères avec elle. Ils n'ont peut-être pas, écoutez-moi bien, tous ces gens qui seront jetés et condamnés avec elle, Jézabel, ils n'ont peut-être pas été un esprit de Jézabel en puissance. Ils n'ont peut-être pas fait toutes les mauvaises choses qu'elle, elle a fait. Mais la Bible dit qu'ils seront jetés avec elle sur un grand lit et ils auront une grande tribulation. Ça veut dire que les gens qui ont été débauchés, eux aussi seront jugés avec elle. Et elle a fait pourtant, elle, des choses très graves, extrêmement graves, mais ils seront aussi, eux, jugés. Ils ne seront pas pris pour irresponsables. Ils ne seront pas pris pour non coupables. Ils seront aussi jugés coupables. Il est dit, je frapperai... Alors, j'aimerais prêcher mes deux heures sur juste cette phrase. Je frapperai de mort ses enfants. Tous les enfants de Jézabel. Ça ne veut pas dire des personnes. Son œuvre, ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a voulu enfanter. Tout ce que l'on veut enfanter par la chair, Dieu le frappera de mort. Tout ce qu'elle a voulu faire. La Bible dit que Dieu frappera de mort chacun de ses enfants. Toutes ses tentatives. Tout ce qu'elle a voulu faire sera frappé d'échec. Ne sera jamais couronné de succès. Il est dit, je frapperai de mort ses enfants. Donc ça veut dire qu'aucune de ses œuvres ne subsisteront. Elles existent peut-être aujourd'hui, ou elles ont peut-être eu existé, mais une chose est sûre, elles ne subsisteront pas. Elles seront tôt ou tard frappées de mort. Vous comprenez cela? Une cassette à mettre dans beaucoup de mains. Si les gens ont le courage de l'écouter. Mais la Bible dit que ce ne sera pas tout le monde qui se sera corrompu. Pas tout le monde qui aura connu les profondeurs de Satan, parce qu'il y en a 7000 qui n'auront pas fléchi le genou devant Baal. Et mes amis, nous sommes dans ces 7000 dans le nom de Jésus. Nous faisons partie de cela. Nous ne fléchirons pas le genou devant les pressions de cet esprit qui veut s'élever soi-même. Nous disons non dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire, ce péché ne passera pas par moi. Cet esprit ne passera pas par moi. Alléluia. Amen. Il est dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, donc de cet esprit, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oh mes amis, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Est-ce que je vais avoir le temps de tout dire ce soir? Oh, hallelujah! Oh, j'aimerais parler mille fois plus. Nous avons vu ensemble la personne de Jézabel. Nous avons fait un portrait rapide de la personne d'Achab, n'est-ce pas? Nous avons vu comment agit Jézabel, premièrement, dans le couple, dans le mariage. Deuxièmement, comment agit Jézabel avec les leaders? Jézabel et les leaders. Nous avons vu Jézabel et les prophètes. Ok. Et nous avons vu maintenant Jézabel dans l'église. Ok. Maintenant, dernière chose. Et j'aimerais que vous regardiez avec moi. Oh, c'est ce que je préfère. Dans 2 Rois. Oh, le diable est nerveux. On voit même ses mouches. Belzébul, ça veut dire le dieu des mouches. Satan, ça ne te plaît pas, excuse-moi. Mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter, sachant que le meilleur est à venir. Le meilleur est pour maintenant. Deux rois, vous y êtes ? Au verset 9, au chapitre 9, pardon, et au verset... On va commencer par le verset 30, on va se faire plaisir. Vous êtes avec moi ? Ok. Jéhu, vous savez maintenant qui est Jéhu, entra dans Jizréel, qui était la capitale véritablement de Jézabel, entra dans Jizréel, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux et se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi ? Qui ?» Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas !» Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Allez donc voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tibite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la place des champs dans le champ de Jizréel, de la sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » La dernière chose que j'aimerais vous partager ce soir, c'est le crâne, les pieds et la paume des mains. Il y a trois choses qui ont été retrouvées de Jézabel. C'est le crâne, les pieds et la paume des mains. Et j'aimerais vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il donné une prophétie tellement étrange ? Pourquoi Dieu a fait les choses de façon tellement étrange ? Pourquoi Jézabel, cette maudite, comme Jéhu a dit, et ce n'était même pas une insulte, c'était vraiment une maudite. Pourquoi Jézabel, cette femme qui a marché dans l'autorité, dans la domination, dans la richesse, dans la gloire, une certaine gloire, pourquoi cette femme-là, son corps a été jeté à terre par deux eunuques, son sang a rejailli sur la muraille. Le roi Jéhu, voilà ce qui s'est passé, le roi Jéhu était là sur son cheval puissant et il est venu avec son cheval, il l'a piétiné à terre. Il en a commencé à en faire une bouillie de cette reine qui s'était fardée, qui s'était habillée pour sa mort. Et le voici, descend de cheval, ne la regarde même pas. Entre, mange, bois, il dit c'est une fille de roi, on a des traditions, on a quand même une façon de faire. Donc, allez l'enterrer cette maudite. En quelque temps, le temps qu'il mange et qu'il boive, il sort. Ses serviteurs sortent. Et là, il trouve, il cherche le cadavre de Jézabel. À mon avis, je pense qu'il trouve une tache, une énorme tache de sang. Et là, sur cette tache de sang, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de corps. Il y a une partie de son crâne, la paume de ses mains et la plante de ses pieds. Mes amis, pourquoi ? Pourquoi Dieu fait-il des choses étranges comme ça ? Est-ce que Dieu fait les choses par hasard ? Est-ce qu'il y a une chose dans la Bible qui ait été écrite par hasard ? Chaque fois que nous ne comprenons pas, c'est parce que nous ne comprenons pas. Mais il y a toujours une raison, il y a toujours un sens. Mes amis, le crâne représente notre intelligence, notre pensée, nos choix, nos décisions, la puissance de notre pensée et de notre intelligence. Les pieds représente les voies que nous suivons, là où nous allons. Et les mains représentent l'œuvre que nous accomplissons. ce que nous faisons dans nos vies, ce que nous allons faire dans nos vies. Mes amis, les chiens n'ont pas mangé ces trois choses parce qu'ils ont voulu et Dieu a voulu que le monde de l'époque, le peuple d'Israël de l'époque qui avait suivi cette maudite, et nous, gens du Nouveau Testament, que nous puissions voir de nos yeux que l'intelligence de cet esprit, que la force de cet esprit, que les voies que suivent cet esprit, que l'œuvre qu'accomplit cet esprit sera définitivement réduite à néant. Vous comprenez cela ? Dieu n'a pas voulu que les chiens dévorent entièrement sa chair. Dieu a voulu que nous nous souvenions que son intelligence perfide et corrompue sera réduite à néant et que nous le voyons de nos propres yeux. Dieu a voulu que son peuple voie que les pieds qui suivent ses voies seront détruits, ils n'ont aucun avenir. Et Dieu a voulu que son peuple voie que les œuvres qu'accomplissent ses mains n'ont aucune puissance, seront détruites et réduites à néant. C'est pourquoi il fallait que son crâne reste, il fallait que la paume de ses mains reste, il fallait que la plante de ses pieds reste comme suprême humiliation de ce qu'elle était réduite sans puissance, que les œuvres de Dieu sont bien plus grandes. Mais mes amis, lorsque nous étions lépreux, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous n'avions pas Dieu dans notre vie et que nous sommes venus à Jésus, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies selon Lévitique 14 ? Le sacrificateur dans Lévitique 14 prenait le sang du sacrifice et puis après prenait l'huile du sacrifice et il aspergeait sur le lobe de l'oreille et il aspergeait sur le pouce de la main et il aspergeait sur l'orteil du pied afin que nos pensées soient ouates pour servir l'Éternel, afin que nos mains soient ouates purifiées pour servir Dieu, afin que nos pieds suivent des voies droites. Et tout ce que nous faisons dans l'onction et dans la puissance de Dieu restera pour l'éternité. Mais tout ce que nous faisons par le bras de la chair sera détruit et réduit à néant. Dieu a voulu que nous voyions que l'intelligence corrompue de cette femme allait être jetée au fumier. Que tout ce que nous faisons selon ses voies, selon cette façon de faire là, ne nous rendra jamais prospères, ne nous bénira jamais. Dieu a voulu que nous voyions que ses mains seraient jetées au fumier, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, seraient jetées au fumier. Parce que tout ce que l'ennemi peut s'efforcer de faire, travailler à faire, passer parfois une vie à essayer d'accomplir, sans la puissance de Dieu, hors des lois de Dieu, n'aura aucun effet, aucune puissance. Ce n'est que du temps perdu. Ce n'est que de la vanité. Ce n'est que des choses éloignées de Dieu. Mais rappelez-vous, l'esprit de Jézabel a toujours un lien avec les choses spirituelles. C'est-à-dire que ces œuvres-là, elle veut les accomplir de façon à ce que les gens le voient, les gens croient que c'est selon Dieu, les gens pensent que c'est spirituel. C'est ce que l'esprit de Jézabel fait dans le monde entier. Et c'est ce qui sera détruit à néant, réduit à néant, pardon, sans puissance, sans puissance. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen.